Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits. Merci pour votre fidélité. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous êtes également de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie. Comme vous le savez, les prix du papier augmentent très fortement. Et donc pour une revue papier, cela a évidemment des conséquences lourdes sur ces différentes affaires. Et la meilleure manière de soutenir Conflits, eh bien, c'est de vous abonner. Nous n'augmentons pas les prix de la revue grâce à la hausse de nos abonnements. Donc pour ceux qui écoutent régulièrement nos émissions et qui ne seraient pas abonnés, eh bien si vous voulez nous soutenir et en plus avoir accès à l'ensemble des articles parus sur le site internet et tous les deux mois la revue papier, eh bien en vous abonnant, c'est la meilleure action que vous puissiez faire, ou bien en offrant également des abonnements, notamment à des étudiants ou à des professeurs qui sont intéressés par ces sujets, ce qui pourrait les aider pour préparer leurs cours ou pour préparer leurs examens. Cette semaine, nous allons partir vers la question de la dissuasion nucléaire et notamment de la dissuasion nucléaire sous-marine avec mon invité Félix Thorez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez beaucoup travaillé sur les questions nucléaires, travaillé également sur l'histoire économique. Je vous avais reçu il y a quelques mois pour un précédent ouvrage sur le virage manqué, donc l'histoire économique des années 1950-1980 en France. Mais cette semaine, nous allons parler de tout autre chose, puisque il s'agit de dissuasion nucléaire maritime, un ouvrage que vous avez publié au Cherche Midi, Les atomes de la mer, la propulsion nucléaire française, histoire d'un outil de dissuasion. Alors, ouvrage qui est coécrit avec Boris Donzer-Kantoff et qui est préfacé par le chef d'état-major de la marine, à savoir l'amiral Pierre Vandier. Alors, c'est un beau sujet, c'est un sujet très intéressant que vous abordez aussi de multiples manières et notamment en expliquant que la dissuasion nucléaire, c'est certes les missiles, pour faire simple, mais que c'est aussi cette dimension de la propulsion, donc la manière dont les sous-marins sont propulsés. Est-ce que c'est un choix qui a été fait dès le début, enfin qui allait de soi, cette propulsion nucléaire, ou au contraire, est-ce que ça s'est fait par la force des choses, parce qu'on s'est rendu compte que c'était ce qu'il convenait de mieux?
Oui, la propulsion nucléaire n'est pas très connue. À ma connaissance, c'est le premier ouvrage en français sur le sujet. Elle n'est pas très connue pour plusieurs raisons qui recoupent son histoire. D'abord, elle reste essentiellement dans le militaire, voire stratégique, mais pas toujours stratégique. Et donc, bon, les militaires n'ouvrent pas le capot de ce qu'ils font, par définition, des moteurs de leurs sous-marins et autres porte-avions, ou peu. C'est aussi un sujet technique. Bon, la propulsion nucléaire, ce sont en général des réacteurs repressurisés comme le parc nucléaire français ou le parc nucléaire américain ou chinois. Donc, c'est classiquement une technique relativement classique, née après-guerre. Mais surtout, bon, le moteur, le réacteur dans un sous-marin en particulier, les marins français appellent ça des chaufferies, ce qui n'est pas très romantique. La chaufferie, bon, c'est un élément parmi d'autres, en fait. C'est-à-dire, il y a le sous-marin lui-même qu'il faut concevoir, qu'il faut construire. Il y a ses missions sous la mer. Il y a ce qu'il transporte, c'est-à-dire des vecteurs, des missiles avec des bombes thermonucléaires MIRV, c'est-à-dire à plusieurs trajectoires. Dans tout ça, on oublie un petit peu le réacteur lui-même. Or, le réacteur lui-même, c'est ce qui assure à la propulsion stratégique une sorte d'invincibilité, quoi. C'est-à-dire, il se dilue dans l'océan et on ne peut pas espérer, par une première frappe nucléaire, supprimer tous les sous-marins stratégiques de l'adversaire en face. Donc, la propulsion nucléaire, c'est, je crois, un élément capital, fondamental de la dissuasion depuis les années 50.
Alors, il faut des entreprises pour la fabriquer, cette dissuasion nucléaire. Quelles sont les entreprises françaises qui le font? Est-ce que ça a évolué aussi au travers du temps? Et là aussi, on suppose que ça a dû être un enjeu important en matière d'indépendance stratégique, que ce soit fabriqué par une entreprise française et non pas par une entreprise allemande, anglaise ou pire, américaine.
Le tournant, c'est 1964, avec la divergence du prototype à terre, le PAT de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. C'est la volonté du général de Gaulle qui découle de sa volonté d'une dissuasion autonome, qui découle du fait que les premiers à l'avoir mise au point, ce sont les Américains. Petit point d'histoire, c'est en 1939, en janvier 1939, un certain Rosgun, qui est un physicien qui travaille au service de recherche de la Navy, où il recherche la propulsion parfaite, c'est-à-dire celle qui n'émet pas de gaz, etc. Il entend deux grands physiciens théoriques de l'époque, Niels Bohr et Fermi, qui expliquent les potentialités d'un réacteur. Il lance un budget, la marine embraye très vite, il y a un budget, mais l'armée écarte la Navy au moment du projet Manhattan, en disant, bon, la priorité c'est la bombe. Et donc la marine américaine reprend le projet juste après la guerre, 45-46, rappelons-nous que Nimitz, le chef de la flotte du Pacifique, était un sous-marinier, et en 10 ans à peine, grâce à un certain Rickover, qui est quand même le grand homme de la propulsion nucléaire, elle met au point, entre 45 et 55, un réacteur nucléaire dans ce qui s'appelle le centre de recherche d'Arco, dans l'Idaho, qui est le premier réacteur nucléaire pour sous-marin à terre, mais bien sûr, qui sera embarqué. Et 2 ans plus tard, le Nautilus prend la mer à Groton. J'ai eu la chance, le privilège d'aller dans cette petite ville du Connecticut, où il y a un chantier naval, et il part à la mer. Et d'emblée, le Nautilus fut une révolution navale. C'est-à-dire, il va plus vite, il est incroyable, il est performant, bon, il est un peu bruyant, ça va s'améliorer très vite. Ce n'est pas un sous-marin nucléaire stratégique, le Nautilus. C'est un sous-marin nucléaire d'attaque, il a des torpilles. Il est prévu pour chasser d'autres sous-marins. Très vite, on voit que le Nautilus change la donne, et donc on décide de... La Navy fait son basculement technologique dès les milieu des années 50, c'est-à-dire on ne construira plus de sous-marins d'attaque qui ne soient pas à propulsion nucléaire. Et puis, à ce moment-là, les Russes, je simplifie un petit peu, mais c'est à peu près le timing, 1957, lance Sputnik. C'est le fameux missile GAP. Et là, affolement général à bord, qu'est-ce qu'on a, nous, comme missile, missile stratégique, qui puisse concurrencer la capacité de l'Union soviétique à bien sûr, bombarder les États-Unis, sachant que on le sait avec la conquête spatiale, le Sputnik, c'est aussi une fusée Vostok performante. Et là, il y a une réunion, ce que je passe vite, mais où quelqu'un dit, qui est l'inventeur de la bombe H, Edward Teller, qui dit, mais si vous mettiez des missiles à propulsion solide dans un sous-marin, la propulsion solide, c'est moins efficace que la propulsion liquide, mais c'est plus efficient, plus robuste. Avec des chars miniaturisés, ça marche. OK. En 3 ans, les Américains lancent le programme Polaris, c'est-à-dire ils conçoivent les fusées qui vont porter les bombes nucléaires. Et surtout, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils écorchent, ils ouvrent un sous-marin nucléaire d'attaque propulsion nucléaire, un Skyjack, et ils mettent dedans 16 tubes lance-missiles. Quand l'état-major de la marine française, on est vers la fin des années 50, entend parler de ça, il n'y croit pas. C'est-à-dire, un sous-marin qui lance sous la mer des missiles, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Et donc, bon, dès le début des années 60, à partir du George Washington, les Américains ont une flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, je prends la dénomination française, qui surpasse les Soviétiques. Alors, un petit mot sur les Soviétiques. Ils ont, de leur avis, d'après ce qu'ils ont publié, ils ont 4 à 5 ans de retard, qui vont s'employer à rattraper à coup de 12 sous-marins plus puissants, plus rapides, où ils doublent leur réacteur à bord, à coup aussi de submersibles qui sont mis à la mer, pas entièrement opérationnels. Et c'est l'équipage qui se débrouille. Donc après, il y a un côté assez surprenant, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur les sous-marins soviétiques, mais il y a un côté acrobatie, des exploits, ils sauvent dans des circonstances impossibles, alors qu'il faut souligner, du côté occidental, américain, britannique, français, aucun réacteur nucléaire embarqué n'a jamais eu d'accident. Il y a eu des accidents de sous-marins, mais aucun est dû à la propulsion nucléaire. Alors, à la fin des années 50, dans le cadre de l'OTAN, la question est-ce qu'on peut partager, mais sur la propulsion nucléaire? La question est posée aux États-Unis. Et là, les États-Unis disent oui à des conditions très strictes. Ils disent oui à la Grande-Bretagne, c'est les accords de 58. Et donc, ils prêtent un réacteur de sous-marin nucléaire. La Grande-Bretagne, ça va être le premier sous-marin nucléaire britannique qui est un sous-marin nucléaire d'attaque. La France demande également un sous-marin nucléaire, ou du moins une technologie à propulsion nucléaire. Et c'est là qu'arrive De Gaulle. De Gaulle arrive au pouvoir. Et De Gaulle, il y a une vision stratégique de De Gaulle, bien sûr. Il a toujours dit, on pourrait prendre des technologies américaines, on pourrait les prendre sur l'étagère, on gagnerait 5 à 10 ans. Je ne dis pas non. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit entièrement souverain et indépendant. Et l'une de ses premières décisions en 59, c'est décrocher la flotte française de la Méditerranée, on est en pleine guerre d'Algérie, deux, du commandement de l'OTAN. En pleine négociation avec la Chambre des représentants, avec le Congrès, sur l'obtention d'un réacteur nucléaire pour les sous-marins et du combustible à uranium enrichi qui le permet de le faire fonctionner, sachant que la France, à l'époque, n'a pas d'usine à enrichissement d'uranium. Et donc, elle fait ça avec de l'uranium naturel, ce qui est bien sûr beaucoup moins efficace. Là, il y a une sorte de partage de Salomon qu'on a un peu démêlé, qui a été très compliqué. Grosso modo, les Américains disent non au réacteur, pour plusieurs raisons, notamment. On a vraiment traqué avec mon co-auteur les débats du Congrès américain de l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de légendes, hein, sur pourquoi les Américains ne nous ont pas donné le réacteur. Mais grosso modo, c'est non, parce que vous êtes trop indépendant avec... vous voulez quitter l'OTAN, vous n'êtes pas fiable. Et deux, si on vous donne cette technologie, il y a cette vision américaine de l'époque, hein, qui durera très longtemps d'ailleurs, on vous donne cette technologie, elle part à Moscou dans les 48 heures, par l'Union soviétique. Donc vous n'êtes pas fiable. Vous êtes un pays vaincu par la Deuxième Guerre mondiale, vous n'êtes pas fiable. Mais on vous donne quand même un certain nombre de kilos d'uranium enrichi pour débarrer un réacteur à terre, ce sera le PAT. Et donc, à partir de 1964, la France, grâce à une pléiade d'ingénieurs de génie, notamment Jacques Chevalier, Andrieux, Bonnet, va réinventer la propulsion nucléaire, sur un modèle américain de fait, mais elle va la réinventer. Personne n'y croyait beaucoup, parce qu'il faut savoir que dans les années 50, la France avait tenté de faire son propre sous-marin nucléaire, qui était qu'on appelait le Q-244, il n'a jamais été achevé, sur une technologie à uranium naturel, modéré à l'eau lourde. Ça a donné une sorte de géant, le programme était mal conçu, et à un moment donné, ils s'arrachent les cheveux, ils disent, c'est une voie sans issue. Qui a quand même permis, ça a été une sorte de... Elle a essuyé les plâtres, elle a permis aux équipes de la marine et du CEA de mettre au point les bonnes méthodes, les bonnes techniques pour réussir le PAT. En 64, peu de gens croyaient que les Français y arriveraient tout seuls. Bah, ils l'ont fait. À partir de là, il s'est écoulé 7 ans entre la mise au point du PAT et la... Pendant ce temps-là, le redoutable est mis en chantier. Hein. Sauf que les missiles posent problème à leur tour, les missiles français. Et donc, il faudra attendre 72 pour que la première patrouille opérationnelle de la force, la FOST, Force Océanique Stratégique, parte en mer avec... On a un redoutable, on a dedans 16 tubes lance-missiles comme les Américains, armés de bombes nucléaires et propulsés par le réacteur nucléaire, le PAT, qui a été mis au point à Cadarache en 64. La France a inventé sa filière de propulsion nucléaire toute seule. Et à ce jour, elle reste la seule, à part les États-Unis et la Chine, dans une certaine mesure, à l'avoir fait.
Alors, on a eu l'année dernière, en 2021, ce psychodrame national sur les sous-marins australiens qui ont préféré des sous-marins américains à propulsion diesel. Quelle est la différence d'utilité, au-delà de la technologie, quel est l'intérêt d'une propulsion nucléaire par rapport à une propulsion diesel?
Propulsion nucléaire, même si la propulsion diesel s'est beaucoup améliorée, beaucoup plus performante, c'est plus rapide, c'est plus silencieux. Et alors, il faut savoir que les Américains, parallèlement au George Washington et à tous leurs sous-marins stratégiques, et les Soviétiques ont lancé une gigantesque flotte de sous-marins nucléaires d'attaque. On l'a oublié, mais durant la guerre froide, je le décris parce que c'est... Soviétiques et Américains sont battus sous les mers. Hein. Alors, le sous-marin nucléaire d'attaque, il est là pour protéger le sous-marin nucléaire stratégique, il est là pour protéger le porte-avions, conventionnel ou nucléaire, et il est là pour protéger toutes les flottes de son bord. Il y en a eu beaucoup, et alors très curieusement, les Britanniques ont fait la même chose que les Américains, ils ont eu plusieurs classes de sous-marins nucléaires d'attaque. La France, là il faudrait en parler aux spécialistes de l'histoire de la marine française, la France a mis du temps à verser dans la propulsion nucléaire d'attaque. Elle ne le fait qu'à partir de 80-83 avec la classe Ruby, qui est une classe de tout petits sous-marins très économiques, qui dérive du PAT. Et puis maintenant, elle le fait, mais il avait entre 80 et aujourd'hui, là, avec le programme Barracuda, et dont le premier Suffren a été inauguré en 2019, hein, je crois, 2020, elle va le faire avec du retard. Il y a un retard. La France juge, je pense, pour différentes raisons, puis il y a une question aussi de budget, hein, que bon, des sous-marins à diesel peuvent faire le même office que les sous-marins nucléaires d'attaque. Or, un des points de vue qu'on défend dans le livre, c'est le fait que le sous-marin nucléaire d'attaque, c'est un outil stratégique comme le sous-marin nucléaire stratégique. Pour, pourquoi c'est un outil de dissuasion? Parce qu'il permet de contrôler la mer. Et là, dans l'épisode australien, alors, petite parenthèse, on a toujours l'argument, mais on ne peut pas vendre un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est trop une technologie trop sensible. Attendez, là, d'autres pays l'ont fait, hein. Les États-Unis l'ont même proposé à la France dans les années 60. Ils ont proposé un Skapjack, sans doute pour protéger nos sous-marins stratégiques. Les Russes, les Soviétiques ont prêté à l'Inde en particulier et à la Chine, je crois, si je ne m'abuse, des sous-marins nucléaires d'attaque de vieille génération, mais quand même des sous-marins nucléaires d'attaque que ces derniers ont transformés en sous-marins stratégiques. Et puis, il y a eu un appel d'offres à la fin des années 80. Le Canada voulait des sous-marins défendant le passage du Nord-Est sous la banquise. Et donc, la France a remporté un appel d'offres avec l'Améthyste, qui était un sous-marin qui était capable de percer la glace en faisant surface à propulsion nucléaire. Sauf que, battant les Anglais, hein, il y a eu un appel d'offres, sauf que il y a eu un fameux banquet, les Canadiens ont annulé. L'histoire veut que ce soit les Américains qui disent pas question que...
Déjà à l'époque.
Que d'autres que nous. je pense que la guerre froide se terminait, les Canadiens, c'était pas un budget. Mais bon, il est clair que c'est pas du tout un tabou. Alors, pourquoi le choix australien? Je crois que le choix australien, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a une montée des tensions dans la zone Indo-Pacifique. Tout le monde en parle, bien sûr, avec la montée en puissance de la flotte chinoise, de la marine chinoise. La question, elle est, ils veulent des sous-marins nucléaires. Ils ont une flotte de sous-marins conventionnels assez étriquée. Ils voulaient la renouveler. Au départ, c'était les Français, puis probablement quelques personnes bien intentionnées à Washington et à Londres l'ont dit, mais pourquoi vous ne preniez pas les sous-marins nucléaires d'attaque? Le sous-marin nucléaire d'attaque, il vous permet d'aller plus loin, d'aller plus vite, et surtout, il faut quand même voir que la base, ce sera à Perth, l'Australie occidentale, et entre Perth et le détroit de Malacca, Singapour et les eaux de la mer de Chine méridionale, il y a quand même plus de 2000 km. Hein. C'est pas... Donc il faut faut des submersibles qui aient une capacité. Et là, bon, alors les Australiens l'ont dit, on a peur de la Chine. Ils étaient très proches de la Chine à un moment donné, puis les relations se sont refroidies et la Chine a montré le gros bateau à partir de la fin des années de 2017, 2018, 2019. Et donc le deal AUKUS, c'est un deal stratégique, c'est-à-dire de dire dans le cadre de ce partenariat, vous avez le parapluie stratégique nucléaire américain, notamment. J'ajouterai un point extrêmement important, c'est que des gens ont dit, mais les Australiens ne sont pas capables de construire ces sous-marins, ils ne sont pas capables de les faire fonctionner, ils n'ont aucune technologie, aucune savoir-faire, il faut un savoir-faire, une compétence, bien sûr, pour faire fonctionner ces appareils. Mais il faut savoir que la doctrine américaine, qui n'est pas la doctrine française, c'est la doctrine un cœur de réacteur, une vie. C'est-à-dire, on place le réacteur avec son cœur et son chargement, et il dure toute la vie du sous-marin. Ce qui permet, et on le scelle. Donc personne ne regarde, vous voyez ce que je veux dire. Ça se fera aux États-Unis et ça se fera à la fin aux États-Unis. La France a une technologie un peu distincte avec des brèches qui permettent de recharger le réacteur en cœur de vie. Et si vous, au moment de son épuisement, de la première charge, un point important à signaler, c'est que là où la technologie et le paysage nucléaire américain et français divergent, c'est que les Américains sont restés fidèles à des moteurs, des réacteurs à uranium fortement enrichis. Et donc, quand c'est fortement enrichi, c'est plus performant, bien sûr. Et donc, ça permet de durer une vie de sous-marin. Alors que la France, à partir des années 70, a fait le choix de réacteurs à fonctionnant à combustible légèrement enrichi. Ce qui permettait de s'aligner sur le parc français. Et là, ça introduit une différence de parc nucléaire entre les États-Unis et la France. C'est qu'en France, on a un parc nucléaire extrêmement important, même s'il a aujourd'hui des problèmes. Et je dirais, la volonté de la marine française a été de dire, on n'est pas là pour faire de la recherche nucléaire, on n'est pas là pour... On s'approvisionne comme le parc nucléaire, ce qui fait que dans le paysage nucléaire français, je dirais, la filière de réacteurs est, je ne dis pas secondaire, mais elle a une place relativement mineure et spécialisée. Alors qu'aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a 500 à 600 réacteurs qui se baladent sous la mer, les réacteurs de la marine américaine. Vous voyez, personne ne le dit, mais il y a beaucoup plus de réacteurs de la marine américaine en fonctionnement que de réacteurs civils américains. Et là, de ce point de vue-là, ce qui permet à la marine américaine de dire, moi, je fais mes réacteurs, je le fais à ma manière, et personne ne peut regarder ce qu'on fait. Et donc, c'est vraiment un univers totalement clos et obsidional. Il y a eu plusieurs tentatives de responsables français de dire, à la fin des années 2000, si on se rencontrait, si on discutait formation, sans même parler d'échange. Et la réponse américaine a été de dire, alors qu'on est des alliés, etc., c'était de dire « save the stamp », c'est-à-dire économiser le timbre pour nous poser la question. On ne révélera jamais rien sur nos secrets. Mais ils l'ont quand même fait pour les Britanniques.
Ce que vous montrez aussi, c'est que cette filière nucléaire a bien réussi et n'a pas connu les déboires de la filière nucléaire civile, et notamment ce que l'on voit actuellement, où on aura peut-être des coupures d'électricité parce qu'on a fermé des centrales nucléaires. Là, ce n'est pas arrivé pour le nucléaire militaire qui a été en quelque sorte protégé.
Tout à fait. La différence, c'est que le PAT est conçu par les Français à partir de programmes de recherche sur des réacteurs de recherche français, du CEA. Alors que la licence civile française, DDF, c'est une licence Westinghouse. Et les mauvaises langues disent, du côté du CEA et de la marine et de Technicatome, la société qui fabrique les réacteurs pour sous-marins depuis cette époque, et de dire, on a une technologie peut-être plus performante. Il faut savoir qu'à la fin des années 60, celui qui a fait la réussite du PAT, Jacques Chevalier, qui deviendra ingénieur général de l'armement par la suite, propose de dire, alors qu'on abandonne la filière UNGG, uranium naturel, graphite gaz, qui est trop chère et trop lourde pour le parc civil français des années 60, il dit, mais pourquoi on ne prendrait pas notre filière PAT? Et là, il s'est heurté à d'abord, EDF voulait sa filière à elle, le CEA considérait le pressurisé de façon un petit peu méprisante. Bon, pour différentes raisons, ça s'est pas fait. Mais il est clair que on a une deuxième filière nucléaire qui est très performante. Alors les puissances sont pas les mêmes, c'est pas une filière de série, vous voyez. On n'a pas. Mais il est clair que elle s'est améliorée. Elle a fabriqué pour la deuxième génération de sous-marins nucléaires stratégiques. Elle a fabriqué le premier porte-avions, les réacteurs du premier porte-avions nucléaire français, qui est le Charles de Gaulle. Soulignons, je le rappelle, que la France est le seul pays à avoir un porte-avions nucléaire à part les États-Unis. Ce qui n'est pas le cas de la Chine, ce qui n'est pas le cas de la Russie, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Et c'est à partir de cette filière française qu'on aura peut-être la nouvelle technologie des SMR, les Small Nuclear Reactors, qui sont modulaires en série, qui sont peut-être les petits réacteurs de demain qu'on trouvera dans. Qui sont supposés beaucoup plus efficients, notamment dans les zones reculées, etc., que les grosses machines, style EPR et autres.
Le redoutable, c'est le premier sous-marin à être mis en navigation, inauguré en grande pompe par le général de Gaulle. Est-ce que ça a marqué un tournant majeur à la fois dans l'armée et la marine nationale, mais aussi dans la pensée stratégique nationale?
À l'époque, il y a eu un doute sur le fait que les ingénieurs réussissent le PAT. Donc, à côté des mirages, les vecteurs embarqués sur les avions, les Mirage 4, on a décidé de faire une deuxième composante qui était terrestre, c'était les plateaux d'Albion, qui étaient abandonnés depuis, parce qu'on se disait, le plancher sous-marin, il bouge un peu, est-ce qu'ils vont y arriver? Bon, dès l'instant où ça a marché, et dès l'instant où la génération des redoutables est devenue opérationnelle, il est clair que c'est la dissuasion fonctionne majeurement. Les aviateurs me chipoteront, hein. Ils auront raison, mais le vecteur principal de la dissuasion française, il est sous-marin, c'est clair. Il passe par les sous-marins stratégiques pour leur qualité d'invisibilité, de dilution dans la mer, etc. Ouais. Mais il est clair que il est clair qu'à une époque, il y a eu rivalité entre les différentes armes, comme aux États-Unis d'ailleurs, entre le Strategic Air Command et entre l'armée de terre et entre la Navy. C'est-à-dire, chaque arme dit mon vecteur est le meilleur. Il est clair que pour la marine française, le passage au nucléaire a été une révolution. Et il est clair que le problème, il est suivant, c'est qu'on pensait à une époque que le nucléaire, la propulsion nucléaire allait devenir pour tous les bateaux militaires et pour beaucoup de navires marchands. Ça n'a pas été le cas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les porte-avions nucléaires, les supercarrières, ils démarrent à partir de la fin des années 60, début 70, avec la classe Nimitz. Il y en a 11 qui sont les plus gros, qui sont des gigantesques plateformes. Mais pendant 10 ans avant, le budget et le ministère de la Défense, le Pentagone, a dit non, parce que c'est très cher un réacteur nucléaire. Et ça a été le même problème pour les navires civils. Il y en a eu trois dans l'histoire, en Allemagne, un aux États-Unis et un au Japon, mais ils étaient beaucoup trop chers, ils ont connu beaucoup de problèmes de fonctionnement, puis ils se heurtaient à un problème. Dès qu'ils quittaient les eaux nationales, ils étaient en zone internationale, ils étaient nucléaires, ils relevaient de quoi, ils arrivaient dans un port, où sont les installations pour les accueillir. Ça s'est éteint très vite. Le seul pays qui a développé une filière civile de bateaux à propulsion nucléaire, c'est l'URSS, aujourd'hui la Russie, avec les brise-glaces nucléaires, dont le premier a été le Lénine. Ils en ont à peu près une dizaine, qui fonctionnent très bien, qui sont puissants, qui évitent de charger en fuel, et qui promeuvent le passage du nord-est russe, c'est-à-dire ce qui serait la route parallèle entre la Chine et l'Europe. Mais clairement, la propulsion nucléaire a un défaut, c'est que, alors pour les sous-marins, elle est indispensable, c'est clair. Pour les porte-avions, on est très cher. D'où il y a eu un débat là, pour le successeur du Charles de Gaulle, qui est, les Anglais ont tranché, ils ont fait deux classiques, deux porte-aéronefs propulsion classique, mais un sous-marin nucléaire, c'est très très cher. Donc la France a choisi d'en faire un nucléaire pour prolonger sa filière, mais on ne peut pas l'appliquer à tout le monde, et aux États-Unis en particulier, à part les super porte-avions et bien sûr les sous-marins, il y a eu des croiseurs nucléaires américains, tous ont été désarmés, trop cher. Donc, trop cher à fabriquer, trop cher à entretenir.
Il vaut mieux
par rapport à la propulsion au fuel.
Il vaut mieux parfois avoir le nombre plutôt que la qualité.
Oui, puis en termes de propulsion, notamment sur les océans, le pétrole marche très bien. Il n'y a pas photo. Hein. Quand vous devez propulser des milliers de tonnes de porte-avions, ou vous devez être sous la mer invisible, des métauriens, oui, la propulsion nucléaire. Mais elle est restée, elle n'a pas eu l'avènement qu'on croyait, c'est assez fascinant de relire les textes des années 50-60, les gens croyaient à une ère nucléaire tous azimuts, hein. On était avant les accidents de Tchernobyl et Three Island. Or, elle n'a pas eu son développement attendu parce qu'elle est très chère.
Et on n'a jamais pensé à des avions à propulsion nucléaire?
On y a pensé, mais c'est pareil, hein. Ça s'est vite arrêté. Kérosène, c'est pas mal quand même. Et aussi, regardez le temps qu'on a mis à avoir des voitures électriques. On y est maintenant. Le moteur à explosion, c'est pas mal aussi.
D'ailleurs, quand on voit les coûts d'électricité, on se rend bien compte que la voiture électrique a peut-être déjà davantage un passé qu'un avenir. Il y a aussi un usage civil qui peut être fait de ce nucléaire. Enfin, il y a eu des tentatives, du moins, en inversant le fonctionnement de la turbine pour alimenter certains ports en énergie électrique, pour faire des sortes de petits réacteurs nucléaires.
Moi, le débat est ouvert. Est-ce que les SMR, les small nuclear réacteurs, seront les petits réacteurs du futur, sachant toutes les oppositions que le nucléaire rencontre, hein. Peut-être, parce que ce sont des sources d'énergie qui sont modulaires, petite taille, elles évitent les gros éléphants que sont les réacteurs civils. Sachant qu'il y en a déjà une qui fonctionne en Russie, c'est une plateforme flottante, et une qui est en train d'être terminée à Hainan, en Chine. La France a un léger, il faut quand même le dire, hein, les SMR se sont développés à partir des années 2005-2010. Beaucoup de pays travaillent, les États-Unis, l'Argentine aussi, d'autres. Et la France, on a le discours d'Emmanuel Macron en 2021, mais la France y est mise avec du retard. Et alors, une installation SMR française, c'est celui que fabrique Technicatom, que prépare Technicatom, qui s'appelle Nuward, qui a 350 MW, donc il y a une certaine puissance. Ça sera opérationnel, ou le premier sera réalisé que 2030. Donc on a un petit retard. Ça, on revient au balbutiement de la filière nucléaire française civile depuis quelques années.
Et ensuite, quels ont été les grands enjeux pour l'adaptation et le perfectionnement de cette filière? Parce que lancer, créer, c'est une chose, mais on se doute bien que la propulsion nucléaire d'aujourd'hui n'est pas la même que celle des années 1960 au moment du Redoutable.
Oui et non. Faut savoir que la technologie des réacteurs nucléaires, c'est les réacteurs à eau pressurisée, PWR en français, REP, réacteurs à eau pressurisée. Bon, un ingénieur EDF qui m'a formé il y a très longtemps, François Scola, elle se reconnaîtra, elle m'a dit, oui, le PWR, c'est la deux chevaux du nucléaire. C'est pas la technologie nucléaire pour faire de la chaleur et l'électricité la plus performante, mais c'est la plus efficace, la plus robuste. Il faut bien voir que c'est Jerry Cover qui l'invente, qui la met au point pour le Nautilus, et on lui demande après de dire pour la première centrale PWR américaine qui est Shippingport, on lui dit, voilà, faisons une centrale civile, ce qu'il va faire. C'est-à-dire que elle a été conçue pour des sous-marins et aujourd'hui c'est les deux tiers du parc nucléaire mondial le pressurisé. Vous voyez, il est fixe. Il y a deux circuits, un circuit qui chauffe sous pression, l'eau sous pression, ça permet de la contenir. Circuit qui chauffe, puis un deuxième circuit indépendant qui fait tourner la turbine. J'ajouterais que à bord d'un sous-marin ou d'un porte-avions, qu'est-ce qui sort en définitive d'un réacteur? C'est de la vapeur. C'est quand même le mode de propulsion principal depuis le 19e siècle. Après, gérer la vapeur, les marins savent faire depuis 200 ans, vous voyez. Donc, je dirais, c'est une technologie extrêmement robuste. Et moi, alors, les Français l'ont amélioré. Ce que font les Américains, on sait pas trop. Ce que font les Soviétiques. Les Soviétiques ont fait surtout de la puissance. Enfin, ils ont fait de la puissance. Enfin, il y a une évolution intéressante. Mais les Français, ils ont fait deux innovations quand même, faut le dire. Ils ont fait des réacteurs compacts. C'est-à-dire que dans un réacteur pressurisé, vous avez des boucles qui, dans une centrale civile, sont autour de la cuve. Là, ils les ont mises au-dessus. Ce qui est aussi un autre atout, c'est-à-dire que ça permet à l'eau de descendre, ça fait moins de bruit. Ça évite les soudures, ça évite les vis, ça évite les pompes, enfin, dans une certaine mesure, et donc c'est plus silencieux, ce qui n'est pas négligeable dans un sous-marin. Et d'autre part, ils ont modularisé, je dirais, alors je ne rentre pas dans les détails du K-15, de la CAP, enfin, on décrit un peu cette évolution technologique relativement en détail, d'ailleurs, on a été relu par les spécialistes du nucléaire qui ont dit, vous en dites des fois un peu trop. Bon, on a enlevé le niveau de profondeur dans les sous-marins, c'est tout. Mais donc, il y a la modularité, c'est-à-dire que quelque part, pour des raisons de coût et d'efficacité, on ne réinvente pas quelque chose qui marche bien. Les réacteurs des premières et deuxième générations de sous-marins stratégiques français, les chaufferies, ont permis de faire les chaufferies des rubis, mais aussi faire les gonflant un petit peu la chaufferie du Charles de Gaulle et qui demande beaucoup plus de puissance quand même. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de réinventer à chaque fois le réacteur. Hein. Réinventer un réacteur, c'est réinventer une tête de série. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est cher, avec des résultats toujours aléatoires. Donc faut faire ce qu'on sait faire. Et là, quelque part, la filière française, elle a pas connu d'accident, de défaut. Elle a su évoluer, s'enrichir à partir de ce qu'elle sait très bien faire. Et elle bénéficie quand même, il faut quand même le dire, d'un panel de réacteurs de recherche, notamment à Cadarache, qui lui permettent de tester les flux neutroniques en direct. C'est quand même un avantage.
Pourquoi ce choix de Cadarache pour installer la recherche nucléaire?
Bonne question. C'est-à-dire, en fait, il y avait plusieurs centres du CEA. Il y avait Saclay, il y avait Fontenay-aux-Roses. Il fallait séparer ça des centres de construction comme Indre. On a cherché, et comme la Provence, je suis provençal, offre, hélas, il y a pas mal d'étendues un peu désertiques ou de garrigues, etc. Et donc, là, il y avait un gigantesque, il y avait une sorte de pinette, c'était une forêt ou une garrigue, au sud de la Durance, c'est juste en dessous du Vaucluse. Ce qui a permis, le choix a été fait pour différentes raisons.
Donc il y a l'eau de la Durance qui permet d'alimenter, non?
Non, parce que c'est pareil, il n'y a pas les réacteurs, c'est des réacteurs de recherche, il n'y a pas à refroidir les réacteurs qui fonctionnent. Ceci dit, le terrain étant tellement bien placé, puis finalement, les années qui ont passé, on s'est aperçu qu'il était à une cinquantaine de kilomètres, donc une demi-heure, trois quarts de voiture d'Aix-Marseille, on y a mis terre.
Oui, le projet ITER est voilà. Là-bas aussi.
Mais il y a eu d'autres sites, il y a eu Marcoule, hein, il y a eu Pierre Latte. Je dirais, je ne sais pas si cette histoire a été écrite comme en termes géographiques, mais le sud de la vallée du Rhône, la vallée du Rhône au sens large du terme et la Provence, a été, on va pas dire que c'est la Sunbelt américaine, hein, ou la Floride pour les industries spatiales américaines, mais c'est un endroit où le nucléaire, il y a eu aussi tous les réacteurs qui se retrouvent dans la vallée du Rhône. Hein.
Tricastin notamment.
Voilà, c'est un endroit où pour des raisons d'aménagement du territoire et pour des raisons de place, on a fait pas mal de sites, dont Cadarache. Pour la petite histoire, De Gaulle est venu deux fois à Cadarache. Et on cite la première fois où il y va, et il dit cette phrase extraordinaire, parce que c'est De Gaulle, il dit, et on lui montre le pas, il n'a pas encore divergé, il dit, et ça marche. Et ça marche, je pense que c'est un petit écho en disant, enfin une technique française en matière militaire qui marche, qui est éprouvée. Mais à un moment donné, il dit un peu plus tôt, peu de temps avant l'explosion de la première bombe atomique, que la 4ème République avait initié, il faut quand même le souligner, il dit, oui, on ne peut pas rester à la merci d'un président ou de secrétaire d'État américain. Il faut qu'on ait nos propres outils de dissuasion nucléaire. Il dit, nos ingénieurs sont des lascars et ils trouveront bien les techniques nécessaires. C'est-à-dire, il y a une vision stratégique au sens noble du terme et fort du terme chez De Gaulle qui sait que ça suivra, quoi. Et la France a inventé sa propre filière sur des modèles américains. Mais elle l'a inventé. Alors, et la différence des Britanniques, elle n'a personne à qui puisse te dire oui, ça vous pouvez pas le vendre, ça vous pouvez pas le faire, etc. Ou on a des réserves, etc.
Une véritable autonomie.
Une autonomie stratégique à part entière.
Merci beaucoup, Félix Thorez. Je rappelle le titre de votre ouvrage dont les références sont à retrouver sur le site de Conflit. Les atomes de la mer, la propulsion nucléaire française, histoire d'un outil de dissuasion que vous avez publié avec Boris Danzer-Kantoff, qui est publié au Cherche Midi. Et puis également donc une ancienne émission nous avions réalisée qui est consacrée à l'histoire économique au XXe siècle, le virage manqué. Enfin, vous pouvez retrouver sur le sujet un entretien avec l'amiral Dupont qui a longtemps été dirigeant de sous-marins nucléaires. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.